va essayer d'avoir un aperçu des sept paroles du Seigneur qu'il a prononcées quand il était sur la croix. Alors, bien sûr, c'est un sujet qui est très touchant, qui est très précieux, qui est aussi solennel, mais qui est très, très beau. Donc, voilà, on essaye de l'aborder avec la bonne manière, le bon état d'esprit, avec révérence, avec adoration aussi, parce que ce sont des paroles qui sont profondes, qui sont touchantes. Et on va essayer de voir la portée de ces paroles. Et voilà, donc c'est un sujet qui est beau, mais qui est aussi sérieux, solennel. Et je pense qu'il est très riche. Et voilà, donc on va essayer de faire un aperçu de ces paroles-là. Alors peut-être aussi en introduction, on peut dire que, de manière générale, la croix du Seigneur Jésus, c'est comme une lumière, une grande lumière. Et plus on s'approche de la croix du Seigneur Jésus, plus on obtient de la lumière sur toute chose. Par exemple, si l'on veut comprendre un petit peu, en tout cas, qui est le Seigneur Jésus, plus on s'approche de la croix et qu'on le regarde sur la croix, eh bien, plus on va connaître quelque chose de lui. Pareil pour l'homme. Si on veut avoir une juste représentation de ce qu'est l'homme réellement, eh bien, plus on s'approche de la croix et on voit comment l'homme s'est comporté autour de la croix, vis-à-vis du Seigneur, on va avoir une vraie représentation de ce qu'est l'homme. On pourrait dire la même chose de ce qu'est le monde ou de ce qu'est Dieu. Plus on s'approche de la croix, plus mieux on voit qui est réellement telle ou telle personne. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc on peut dire que la croix, c'est une grande lumière qui montre la réalité de toute chose. Il y a certaines réalités qui ne sont pas belles à voir, par exemple ce qu'est l'homme, mais il y a des choses qui sont très belles à voir, ce qui est Dieu, ce qui est le Seigneur Jésus, et plus on s'approche de la croix, plus on le voit dans sa beauté. Alors, peut-être aussi en introduction, rappeler que le Seigneur Jésus, il a été crucifié pendant 6 heures. Il a passé 6 heures sur la croix. Alors, on va voir que dans le texte biblique, il est question de la... il a été crucifié à la 3e heure jusqu'à la 9e heure. Donc, 6 heures, mais ce sont c'est la manière de compter des Juifs de l'époque. Et les Juifs, ils comptent les heures à partir de, on va dire, de 6 heures du matin. Ils comptent les heures du jour. Pour eux, le jour commence à 6 heures du matin. C'est-à-dire que si le Seigneur a été crucifié de la 3e à la 9e heure, pour nous, ça correspond à 9 heures du matin jusqu'à 15 heures de l'après-midi. D'accord ? Donc, le Seigneur Jésus a été sur la croix, crucifié pendant 6 heures. On verra un petit peu plus comment décrire ces heures qu'il a passées sur la croix. Mais ce qu'on peut retenir, c'est qu'il a passé 6 heures sur la croix et, comme on le voit ici, il a prononcé 7 paroles sur la croix. Et c'est ce qu'on va essayer de considérer cet après-midi. Voilà, ces paroles qu'il a prononcées et ce qu'elles représentent, ce qu'elles signifient, et aussi l'application qu'on peut en faire pour nous aujourd'hui encore. Alors, là, je donne un plan, un aperçu de ces 7 paroles que le Seigneur a prononcées sur la croix. Alors, ce qu'on va voir, c'est que ces 6 heures de la croix, on peut les décomposer en 2 fois 3 heures. De la 3e à la 6e heure, le Seigneur, il était crucifié. Et les hommes, on va dire, pendant ces 3 heures-là, se sont moqués de lui. l'ont insulté, l'ont provoqué, se sont moqués de lui. Et après, on verra que de la sixième heure à la neuvième heure, donc les trois dernières heures, elles sont décrites comme étant des heures de ténèbres, on va le voir, et donc elles ont un autre caractère. Donc 6 heures passées sur la croix, dont on peut dire que les trois dernières, ce sont des heures de ténèbres. Et le Seigneur a prononcé cette parole, et on peut voir que les trois premières paroles qu'il a prononcées, donc qui sont affichées ici, il les a prononcées avant, on va dire pendant les trois premières heures, avant les heures de ténèbres. La parole centrale, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» on va dire qu'il l'a prononcé à la fin des heures de ténèbres. On pourrait dire que c'était encore les heures de ténèbres, mais la fin. Et les trois dernières paroles, elles ont lieu après les heures de ténèbres. D'accord ? Donc, une parole centrale, trois paroles avant, trois paroles après, qui forment un tout. Et ce qu'on peut remarquer, de manière générale encore, c'est que, vous savez, il y a 4 évangiles dans la Bible, dans le Nouveau Testament, et chacun des évangiles nous donne un récit de la vie et de la mort du Seigneur, mais on va dire que chacun des récits est différent. Ce n'est pas le même récit. Dans chaque évangile a ses particularités. Il y a des choses qui sont dites dans Matthieu qui ne sont pas dites dans les autres. Des choses qui sont dites dans Marc qui ne sont pas dites dans les autres, ainsi de suite. Ils ne se contredisent pas, ils se complètent. Ils ont chacun leur particularité. Ils regardent le Seigneur d'un certain point de vue qui est différent, et donc ils se complètent, ils sont complémentaires. Et on peut dire que, quand on regarde comme ça, on voit que l'évangile de Luc nous donne 3 paroles du Seigneur sur les 7, les 2 premières et la dernière. L'évangile de Jean nous en donne aussi 3, la 3e, la 5e et la 6e. Matthieu et Marc donnent seulement une seule parole du Seigneur et ils donnent la parole centrale. Et la parole centrale, on va voir, c'est certainement la plus profonde, la plus profonde. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que quand un évangile rapporte la parole centrale, il ne rapporte aucune autre parole. Matthieu et Marc ne rapportent que cette parole centrale, ils ne rapportent aucune des 6 autres. Et ceux qui rapportent des autres ne rapportent pas la parole centrale. C'est comme si cette parole centrale, quand elle est donnée, rien d'autre n'est donné à côté, pour la laisser dans toute sa force, dans toute sa richesse, dans toute sa profondeur. Et voilà, quand elle n'est pas donnée, ce sont les autres qui sont donnés. Aussi, peut-être une remarque un peu de détail, je pense que la deuxième et la troisième parole, donc quand le Seigneur dit au brigand, en vérité, je te dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis, peut-être qu'on peut l'inverser avec la troisième. Je pense qu'on peut pas être absolument catégorique de dire laquelle est la deuxième, laquelle est la troisième. Qu'elle soit deuxième et troisième, certainement. Dans quel ordre, peut-être qu'on pourrait les inverser par rapport à ce qui est présenté ici. D'accord ? C'est juste un petit détail. Donc, 7 paroles, une parole centrale qui est la plus profonde. Et quand un évangile nous donne la parole centrale, il ne donne pas les autres. Et ceux qui donnent les autres ne donnent pas la parole centrale. Alors, juste aussi en introduction, on peut peut-être essayer de donner un petit descriptif de chacune des paroles. La première parole, « Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font », on pourrait dire que c'est une parole d'intercession ou de prière. La deuxième parole, en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. C'est une parole de salut, d'être sauvé. La troisième parole, femme, voilà ton fils et voilà ta mère. Ce sont des paroles de, on pourrait dire, de tendresse ou d'amour de la part du Seigneur. La parole centrale, c'est une parole de souffrance, une parole de détresse. La cinquième parole, j'ai soif, c'est une parole de désir. La sixième, c'est accompli, on pourrait dire que c'est une parole de victoire. Et la dernière parole, Père, entre tes mains, je remets mon esprit, c'est une parole de confiance. Donc c'est, voilà, une petite introduction. Donc dans ces paroles, à travers ces paroles, on peut discerner ce qu'il y avait vraiment dans le cœur du Seigneur Jésus quand il était crucifié. Et comme on a dit au début, ça permet, comme une grande lumière qui est projetée sur le Seigneur Jésus, de méditer ces paroles qu'il a prononcées sur la croix. Ça nous permet d'entrer un petit peu dans son cœur et de voir qui il était vraiment. D'accord ? Donc, voilà un petit tableau d'introduction. Alors maintenant, ce que je propose, c'est qu'on va essayer de considérer chaque parole l'une après l'autre, voir ce qu'elle signifie pour nous aussi aujourd'hui. Et voilà, je pense qu'on va voir les trois premières et après on fera la pause. Et après la pause, on verra la quatrième et les trois dernières. Donc, si y a des questions à poser, vous pouvez lever la main, poser des questions, m'interrompre. S'il y a des choses qui ne sont pas claires ou s'il y a des choses qui mériteraient d'être précisées, n'hésitez pas à interrompre pour poser des questions. D'accord ? Donc, je rappelle, c'est une réunion pour les jeunes. On se réjouit qu'il y ait des plus âgés, mais c'est avant tout pour les jeunes. Donc, si les jeunes, vous ne comprenez pas bien, ben, vous levez la main pour le dire. Parce que le but, c'est que ce soit pour vous, à votre portée, en premier. Alors, la première parole que le Seigneur a prononcée, elle se trouve dans Luc et elle ne se trouve que dans Luc. Donc voilà, je répète cette idée que les évangiles sont complémentaires. Chaque évangile nous donne quelque chose de particulier et parfois que les autres ne rapportent pas. Alors, pour comprendre cette parole du Seigneur qui est affichée ici, il me semble que c'est vraiment important de se replacer dans le contexte. Alors, j'essaye de nous replacer dans le contexte. Le Seigneur Jésus, donc, est depuis quelques jours à Jérusalem. Et il y a une haine contre lui de la part des Juifs, une haine qui augmente de plus en plus. Et on pourrait dire que les Juifs ne supportent plus le Seigneur Jésus. Ils ne le supportent plus, pourquoi ? Parce qu'il est parfait, parce qu'il est la lumière, la vraie lumière, et que, en fait, dans sa lumière, eh bien, les Juifs, ils voient qu'eux-mêmes sont dans les ténèbres. Et donc le contraste entre la perfection du Seigneur et ce qu'étaient vraiment les Juifs, eh bien, ça mettait les Juifs en colère contre le Seigneur et ils ne le supportaient plus. En fait, la perfection du Seigneur Jésus faisait ressortir le péché, les péchés du cœur des hommes. Et quand on a quelqu'un de parfait à côté de soi qui fait ressortir ce que nous sommes, eh bien, la réaction naturelle, c'est de haïr, malheureusement, celui qui est parfait. Parce qu'en fait, ses perfections nous condamnent, en quelque sorte. Et si un homme parfait à côté de moi, qui montre, en contraste avec ce que je suis, mais qui montre, qui fait ressortir tous mes péchés, toute la laideur de mon cœur, eh bien, ma réaction naturelle, c'est de haïr cet homme parfait. Et c'est ce que les Juifs ont ressenti vis-à-vis du Seigneur. Donc il y a eu de la haine contre le Seigneur. Et les hommes, et conduits par les Juifs, alors je parle des Juifs, mais c'est rien de spécifique contre les Juifs. Ce que je dis, c'est le cœur de l'homme naturel qui agit comme ça. Eh bien, les hommes sont venus saisir le Seigneur Jésus dans le jardin de Gethsémané, quand il était avec ses disciples. Donc, conduit par la haine contre lui, il s'était mis d'accord avec Judas Iscariote pour trahir le Seigneur. Judas avait dit qu'il allait leur donner des pièces d'argent contre le Seigneur. Et donc, les Juifs étaient venus saisir le Seigneur au jardin de Gethsémané pour le crucifié, pour le mettre à mort. Et le Seigneur s'était laissé faire, s'était laissé prendre. Et les Juifs l'avaient amené dans le palais du souverain sacrificateur et ils avaient commencé à parler contre lui. Ils avaient même, je passe les détails, mais le Seigneur Jésus s'était fait gifler par quelqu'un dans ce palais du sacrificateur. Il se faisait insulter, il se faisait moquer. Ils ont constitué une sorte de tribunal, le Sanhédrin, et ils ont condamné le Seigneur Jésus, et ils ont dit que le Seigneur Jésus blasphémait parce qu'il se faisait fils de Dieu. Et donc, il y a même eu des faux témoins qui sont venus parler contre le Seigneur Jésus, mais avec mensonge. Et le Seigneur Jésus, il a enduré tout cela, et il s'est tu. Il a répondu quand on lui posait une question précise, mais il n'a pas cherché à se défendre, à se justifier. Et puis ces Juifs, ils l'ont amené devant Pilate, le gouverneur romain, et ils ont accusé le Seigneur devant Pilate, et ils ont dit « il se fait roi des Juifs, il ne se soumet pas à César, il se prétend être un roi », ils l'ont accusé. Et Pilate, il a tergiversé, il a hésité, il comprenait que les Juifs accusaient à tort le Seigneur, mais il savait au fond de lui que le Seigneur était innocent. Mais globalement, il a préféré faire condamner le Seigneur pour se mettre les Juifs dans sa poche, pensait-il, plutôt que de faire justice et de blanchir et de libérer le Seigneur. Donc le Seigneur, il a vu Pilate tergiverser, hésiter, mais quand même basculer du côté de l'injustice et faire condamner le Seigneur. Et devant Pilate, les Juifs ont crié « crucifie, crucifie-le », comme il est dit aussi « ôte, ôte, crucifie-le ». Ça veut dire « enlève-le de la terre, fais-le mourir, crucifie-le ». Et donc le Seigneur, il a vu cette haine de son peuple contre lui, ce peuple qui voulait le faire mourir, qui ne le supportait plus et qui voulait le faire mourir. Et Pilate, il a dit « Ah, mais j'ai l'habitude de vous libérer quelqu'un à la fête de la Pâque. Est-ce que vous préférez que je vous libère ce Jésus ou est-ce que vous préférez que je libère Barabbas, qui était un meurtrier, qui était emprisonné, meurtrier ?» Et les Juifs, ils ont dit « On préfère que tu libères Barabbas. » Lui, ce Jésus, crucifie-le, crucifie-le. Nous n'avons pas d'autre roi que César. Nous ne voulons pas que celui-ci règne sur nous. Que son sang soit sur nous et sur nos enfants. Voilà ce que les Juifs ont dit devant le Pilate, devant le tribunal romain. Et le tribunal romain, donc avec Pilate, a fait condamner le Seigneur à mort, à la crucifixion. Et donc, il a été amené à Golgotha, sur une colline qui était à l'extérieur de Jérusalem, mais proche de Jérusalem. Et donc là, il a été crucifié. Et à sa droite et à sa gauche, deux malfaiteurs. Donc, ce que je veux faire ressortir, c'est toute l'injustice et la méchanceté, la haine qui ont été contre le Seigneur pendant tous ces jours, toutes ces heures qui ont précédé la croix. Et la première parole que le Seigneur prononce quand il est sur la croix, c'est « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Donc ce qui nous touche dans ces paroles, c'est que malgré toute l'injustice que le Seigneur a endurée, qu'il a subie, eh bien, tous ces sentiments étaient des sentiments de grâce et de pardon. Le Seigneur n'a jamais voulu rendre le mal pour le mal. Le Seigneur n'a pas voulu que ces hommes reçoivent le jugement qu'ils méritaient. Les pensées du Seigneur vis-à-vis de ces hommes qui ont tout fait pour qu'ils soient crucifiés, ce sont des pensées de pardon. Et on peut dire, comme j'ai dit tout à l'heure, il a intercédé. Intercéder, ça veut dire qu'il a parlé à Dieu en faveur de ces hommes qui l'ont fait crucifier. Donc, les sentiments du Seigneur vis-à-vis de cette méchanceté, de cette haine, de cette injustice, ont été des sentiments de grâce. Il n'a pas voulu rendre le mal pour le mal, mais le bien pour le mal. Ça, c'est, il n'y avait pas de sentiment de vengeance dans le cœur du Seigneur. Et ça, c'est quelque chose, quand on voit, quand on pèse bien tout ce qui s'est passé juste avant et jusque-là, que ça, ce n'est pas des sentiments d'un homme comme nous. C'est un homme différent de nous tous. Un homme pur et parfait qui peut avoir seul de sentiments comme celui-là, comme cela. Donc on voit que le Seigneur, il veut rendre le bien pour le mal. Et par contre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que voilà, le Seigneur, il intercède pour ces hommes, il demande le pardon pour ces hommes, et il dit « car ils ne savent ce qu'ils font ». Ça veut dire que le Seigneur dit à Dieu le Père, à Dieu son Père, « ces hommes-là qui m'ont crucifié, ou qui me crucifient, ils ne mesurent pas ce qu'ils font. » Et pour bien comprendre ce que ça veut dire, en fait, on ne peut pas dire que Dieu pardonne à ces hommes-là. Mais, on va voir, Dieu va laisser, ou le Seigneur, par sa prière, va ouvrir la porte du pardon pour ces hommes-là. En fait, dans l'Ancien Testament, si on lit l'Ancien Testament, notamment dans les premiers livres de Moïse, les cinq premiers livres, on voit qu'il y avait principalement deux types de péchés, deux sortes de péchés. Il y avait ce qu'on appelait le péché volontaire et le péché involontaire ou par erreur. Quand il y avait un péché volontaire, il n'y avait pas de pardon possible. Mais quand il y avait un péché involontaire ou un péché par erreur, il y avait un pardon possible. Et donc, ce que fait le Seigneur par cette prière-là, sur la croix, c'est qu'en fait, il qualifie le péché de ces hommes qui l'ont crucifié, il le qualifie comme étant un péché involontaire ou un péché par erreur. Ils ne savent ce qu'ils font. Ils le font par erreur. Ils ne comprennent pas. Ce n'est pas volontaire. Et en donnant un tel caractère au péché de ces hommes, il va laisser la porte du pardon ouverte. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que dans la manière d'agir de Dieu envers les hommes, pour être pardonné, il faut se repentir et confesser ses fautes. Là, Dieu pardonne. Là, on ne peut pas dire que les hommes, ceux qui ont crucifié le Seigneur, on ne peut pas dire qu'ils se sont repentis ou qu'ils ont confessé leurs fautes quand le Seigneur prie. Mais le Seigneur va ouvrir la porte du pardon à ces hommes qui l'ont crucifié. Si le Seigneur avait dit que c'était un péché volontaire, un péché conscient, qui le faisait consciemment, il n'y avait pas de pardon possible. Mais puisqu'ils le font par ignorance ou par erreur, il y aura un pardon possible pour ces hommes. Il y a un autre exemple dans l'Ancien Testament que l'on voit, je le mentionne, c'est ce qu'on voit avec les villes de refuge. Dans la terre d'Israël, dans l'Ancien Testament, il y avait de mémoire 6 villes de refuge qui étaient dans tout le pays, dans toute la terre. Et ces villes de refuge, c'était des villes qui étaient faites pour que quelqu'un qui avait mis à mort quelqu'un d'autre, mais par mégarde ou par erreur, puisse se réfugier dans la ville. En fait, j'essaie de me clarifier. Dans l'Ancien Testament, on voit ça en Nombre 35. Je le cite juste, mais on ne va pas y aller. Il y avait Dieu donné comme loi que si quelqu'un mettait à mort quelqu'un d'autre, il y avait deux cas. Soit la personne avait mis à mort l'autre volontairement, consciemment, et donc c'était un meurtrier. Pour cet homme-là, il n'y avait pas de pardon possible, il n'y avait qu'une condamnation possible. Mais si celui qui avait mis à mort l'autre l'avait fait par mégarde ou par erreur ou par accident, eh bien, il y avait quelque chose qui était possible, c'était que cet homme-là, qu'on appelle un homicide, qui tue l'homme, un tueur d'homme, mais s'il l'avait fait par mégarde ou involontairement ou par accident, il pouvait aller se réfugier dans une ville de refuge. Et s'il était dans la ville de refuge, personne ne pouvait aller le condamner à mort. Il était abrité. C'est la même chose qu'on trouve ici. Puisque le Seigneur qualifie leur péché de péché par ignorance, on pourrait dire que c'est comme s'il ouvrait la porte de la ville de refuge à ceux qui l'ont crucifié. Et donc, ceux qui l'ont crucifié peuvent trouver pardon, peuvent être abrités du jugement s'ils viennent dans la ville de refuge. Voilà. J'espère que c'était à peu près clair ce que je viens de dire. Donc que le Seigneur, dans cette première parole qu'il a prononcée, il n'a aucun sentiment de vengeance, mais il a des sentiments de grâce et de pardon vis-à-vis de ceux qui l'ont crucifié, et il va leur ouvrir la porte du pardon ou du refuge pour qu'ils puissent venir trouver le vrai pardon devant Dieu. Alors, dans cette parole-là, on peut dire que le Seigneur Jésus est un exemple pour nous. Et il y a des versets dans le Nouveau Testament qui nous disent que le Seigneur nous a laissé un modèle afin que nous suivions ses traces. Et là, il est un modèle pour nous. Et pour nous, si on rencontre la haine, l'injustice, la méchanceté dans nos vies, on ne la rencontrera jamais à la mesure que le Seigneur Jésus a connue. Mais si on la rencontre dans une certaine mesure, eh bien, on est appelé à avoir les mêmes sentiments que le Seigneur et ne pas avoir des sentiments de vengeance ou de rendre le mal pour le mal. Par exemple, je veux citer un verset dans Matthieu chapitre 5, où on voit, on va dire, une exhortation pour nous qui est dans l'esprit de ces paroles du Seigneur. Dans Matthieu 5, verset 43, il est écrit, c'est le Seigneur qui parle, il dit à ses auditeurs, « Vous avez entendu qu'il a été dit, « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous font du tort et vous persécutent, en sorte que vous soyez les fils de votre Père qui est dans les cieux. » Donc voilà, le Seigneur, dans ces paroles-là qu'il donne en Matthieu 5, il nous exhorte en quelque sorte et il nous a laissé le modèle quand il a été sur la croix. Mais ce qu'il a fait sur la croix, c'est à un degré qui est le plus élevé, le plus parfait. la haine, les ennemis qu'il a rencontrés, la violence et la méchanceté des ennemis qu'il a rencontrés, on ne la retrouvera jamais pareille pour nous. Mais il est un modèle pour nous. Voilà. Peut-être encore un dernier verset dans Actes, Actes chapitre 3, où on voit c'est Pierre qui prêche aux Juifs, donc quelques jours ou quelques semaines après la crucifixion du Seigneur, quelques semaines après, Pierre va dire en Actes 3, verset 17, il s'adresse au peuple juif et il leur reproche d'avoir mis à mort le Seigneur et il leur dit... Et maintenant, verset 17, « Et maintenant, frères, je sais que vous l'avez fait par ignorance, de même que vos chefs aussi. » Je sais que vous l'avez fait par ignorance, de même que vos chefs aussi. C'est la réponse à la prière du Seigneur. Il va les exhorter à se repentir pour trouver le pardon auprès de Dieu, parce qu'ils l'ont fait par ignorance. S'ils ne l'avaient pas fait par ignorance, il n'y avait pas de pardon pour eux. Voilà. Il y a aussi un verset. Bon, on ne va pas citer tous les versets, on ne peut pas tous citer, ça va durer trop longtemps. Mais à la fin de Ésaïe 53, il y a le dernier verset d'Ésaïe 53, il souligne... quatre attitudes du Seigneur Jésus qui sont des attitudes que Dieu a spécialement appréciées. Et la dernière de ces attitudes, c'est parce qu'il a intercédé pour ses transgresseurs. Donc là, le Seigneur Jésus a intercédé pour ses transgresseurs. Et c'est quelque chose qui a été spécialement agréable à Dieu. Donc voilà, nous sommes dans le temps de la grâce. Dieu offre la grâce aux hommes. Ce n'est pas encore le temps du jugement de Dieu contre les hommes, c'est le temps de la grâce. Dieu veut sauver les hommes et nous sommes appelés à avoir les mêmes sentiments que Dieu vis-à-vis des hommes, des sentiments de grâce et de pardon. Ça ne veut pas dire qu'on ferme les yeux sur le mal que commettent les hommes. On voit que c'est le mal, mais... On les appelle à la repentance pour qu'ils trouvent le pardon auprès de Dieu. Et c'est vraiment l'attitude qu'a eue le Seigneur. Et on remarque que le Seigneur, dans cette première parole, il s'adresse à Dieu comme Père. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Il est en pleine communion avec son Père, même à ce moment-là, et il s'adresse à lui comme son Père. Dans la deuxième question, deuxième parole du Seigneur, on reste dans l'évangile de Luc et on voit donc après la première parole du Seigneur, il y a eu des Luc 23 nous montre qu'il y a eu des moqueries, des provocations vis-à-vis du Seigneur, que les hommes, que ce soit les soldats romains, que ce soit les chefs des Juifs ou que ce soit le peuple juif, les hommes du commun, ils ont provoqué le Seigneur sur la croix. Ils se sont moqués de lui. Ils ont dit « Ah, si tu es le Christ, descends de la croix et on croira en toi. Ah, si Dieu prend plaisir en toi, qu'il te délivre, qu'il te fasse descendre de la croix. » Donc, il y a eu ces provocations contre le Seigneur et le Seigneur n'a pas répondu. Et dans l'évangile de Matthieu et de Marc, il nous est dit aussi que les deux brigands qui étaient crucifiés à côté du Seigneur l'insultaient eux aussi. Donc Matthieu et Marc nous disent que les deux brigands insultaient aussi le Seigneur. Et Luc seul, va nous donner quelque chose, va nous rapporter quelque chose en rapport avec les deux brigands. Donc, d'après ce qu'on peut comprendre de Matthieu et de Marc, tout le monde insultait le Seigneur, les deux brigands compris, mais dans le cœur d'un des deux brigands, il y a un changement qui va se produire. Donc cet homme, ce brigand, ou appelé brigand ou malfaiteur, s'il était condamné à mort, on peut penser que c'était aussi un meurtrier, mais je ne veux pas être trop catégorique là-dessus. On peut penser que c'était un meurtrier, puisqu'il était condamné à mort. Et donc il était condamné à la crucifixion, ils étaient les deux condamnés à la crucifixion pour ce qu'ils avaient fait. Et on voit donc dans ces deux hommes, à côté du Seigneur, on va voir deux attitudes qui vont se différencier. Et l'un des deux malfaiteurs, je vais l'appeler le premier des deux malfaiteurs va continuer à injurier le Seigneur et va lui dire, là on voit verset 39 de Luc 23, « N'es-tu pas le Christ, toi ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. » Donc cet homme, il est condamné à mort. Il voit quelqu'un d'autre à côté de lui qui est injurié par ceux qui sont autour. Eh bien, lui aussi, il continue à injurier. Il s'associe à ceux qui injurient le Seigneur. Et il va lui dire, eh bien, si tu es le Christ, comme tu prétends l'être, le Christ est l'envoyé de Dieu, le Messie, eh bien, sauve-toi toi-même et sauve-nous, nous aussi. Donc, c'est quelqu'un, on pourrait dire, qui n'est pas travaillé dans son cœur et dans sa conscience, en rapport avec ce qu'il a fait, en rapport avec ce qu'il a fait devant Dieu. Il n'est pas du tout concerné par ces sujets. Ce qui l'intéresse, c'est d'être délivré de la crucifixion. Et donc, il voit peut-être dans la personne du Seigneur, il voit peut-être une opportunité d'être délivré de la crucifixion. Et il lui dit, ben, alors si tu es le Christ, si tu es cet homme puissant, ce libérateur, eh bien, libère-toi toi-même et libère-nous, nous aussi. Donc, ce qu'on peut dire de ce brigand, de ce malfaiteur, c'est qu'il aimerait être délivré. Il veut échapper au jugement, mais il ne se repent pas. Il ne reconnaît pas ses fautes, il ne reconnaît pas ses péchés, mais il aimerait bien être délivré du jugement. Et dans le cœur de l'autre brigand, il va y avoir quelque chose de magnifique qui va se produire. Donc, d'après ce que nous disent Matthieu et Marc, ce deuxième brigand, au début, il insultait aussi le Seigneur. Mais Luc, l'évangile de Luc, nous montre qu'il y a quelque chose qui change. Et ce deuxième brigand, il va répondre au premier brigand. Donc le Seigneur, il ne répond pas au premier brigand. C'est le deuxième brigand qui répond et qui lui dit « Et tu ne crains pas Dieu, toi, car tu es sous le même jugement. Et pour nous, nous y sommes justement, car nous recevons ce que méritent les choses que nous avons commises, mais celui-ci n'a rien fait qui ne se dût faire ou qui ne se doive faire. » Donc cette première partie, elle est déjà remarquable. Parce que ce deuxième brigand, qu'est-ce qu'il fait ? Il dit plusieurs choses qui sont très importantes, en bleu. Premier point, il dit à l'autre, « Et tu ne crains pas Dieu, toi ?» En fait, ça c'est très important. Les deux, ils avaient été condamnés par la justice des Romains, par la justice de l'homme. Mais ce deuxième brigand, il va voir quelque chose au-delà de la justice humaine qu'il a condamnée. Il va voir Dieu. Et il lui dit à l'autre, « Et toi, tu ne crains pas Dieu. » Ça, c'est très important. Est-ce que tu ne considères pas ta vie en rapport avec Dieu ? Donc ce deuxième brigand, il apprend que sa propre vie, il faut la voir devant les yeux de Dieu et pas seulement devant les yeux des hommes. Et il va rajouter quelque chose. Il va dire, toi, tu es sous le même jugement. Et il rajoute, nous, nous y sommes justement, car nous recevons ce que méritent les choses que nous avons commises. Ça, c'est aussi très, très important. Ce deuxième brigand, il dit à l'autre, toi et moi, on mérite d'être là où nous sommes. On mérite d'être crucifié à cause de ce que nous avons fait. C'est-à-dire, ce sont des paroles de repentance. Il reconnaît publiquement, il reconnaît dans son cœur et publiquement que lui, il est un pécheur et qu'il mérite la condamnation qu'il a reçue. Souvent, le cœur naturel de l'homme, et c'est notre cœur à tous, il cherche toujours à minimiser le mal qu'on a commis. On trouve toujours des circonstances atténuantes. On explique, ah oui, si, c'est vrai, si j'ai fait ceci ou cela, c'est vrai, je l'ai fait, mais je l'ai fait parce que ceci, parce que cela. Ah, vous comprenez ce que je veux dire? On est tous comme ça. Le cœur de l'homme est comme ça. On va trouver des circonstances atténuantes pour, peut-être pas se justifier complètement, mais pour minimiser la gravité de ce qu'on a fait. Et ce brigand-là, il ne fait pas ça. Pas du tout. Il dit, c'est vrai, je reconnais, je reçois ce que je mérite. Si je suis condamné à mort, c'est que je le méritais. Donc il se repent. Deuxième chose, crainte de Dieu, repentance. Il y a encore deux ou trois choses qui sont très belles. Il va dire, mais celui-ci n'a rien fait qui ne se doive faire. Il dit, il rajoute, mais Jésus-Christ, qui est entre nous deux, lui, s'il est sur la croix, ce n'est pas parce qu'il le mérite, mais c'est en quelque sorte injuste, parce qu'il n'a rien fait qu'il ne fallait pas faire. Il n'a rien fait de faux, de mauvais. Il est saint, il est pur, il est innocent. Et s'il est crucifié avec nous, lui, c'est injuste. Nous, c'est juste que nous soyons crucifiés, on le mérite, mais lui, il ne le mérite pas. Crainte de Dieu, repentance, et il reconnaît que Jésus est saint et pur, et qu'il est crucifié injustement. Et ensuite, il dit encore quelque chose. Il lui dit, souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu viendras dans ton royaume. Ça veut dire qu'il comprend. Il comprend que Jésus est un sauveur et que Jésus est un roi. Parce que, étant condamné à mort, il demande au Seigneur de se souvenir de lui. C'est-à-dire, il espère pouvoir être délivré, être sauvé un jour par Jésus, par ce Jésus. Et il reconnaît que Jésus, qui est crucifié à côté de lui, est effectivement un roi. Non seulement qu'il est un roi, mais qu'un jour, il va régner. Et il lui dit, quand tu viendras dans ton royaume. Donc ce brigand, il comprend plein de choses en quelques minutes. Et c'est très beau. Et il va se tourner vers le Seigneur, il va lui dire, en quelque sorte, sauve-moi. Et je sais que tu es roi, je sais que que tu es crucifié, mais que pour toi, ce n'est pas la fin, qu'il y a un avenir pour toi, au-delà de ta crucifixion, et que tu vas venir régner un jour. Et s'il te plaît, quand tu viendras régner, souviens-toi de moi. Change mon sort. Moi qui suis crucifié, qui est condamné à mort, donne-moi quelque chose d'autre quand tu viendras régner sur la terre. Donc vous voyez, la foi ou l'intelligence que cet homme a reçue, alors que quelques minutes auparavant, il était en train d'insulter le Seigneur. Il a complètement changé. Dieu l'a complètement changé. Et alors, la deuxième parole du Seigneur, il lui répond, « En vérité, je te dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » C'est-à-dire que le Seigneur lui dit, « Tu vas mourir. » Oui, tu es condamné à mort, tu mérites de mourir, tu vas mourir. Ça, je ne vais pas le changer. Mais je vais te donner tout de suite là une promesse, une certitude. En vérité, je te dis. Donc le Seigneur, et c'est très beau de voir, je répète, ce Seigneur qui est crucifié, tout le monde se moque de lui, tout le monde l'insulte. On l'a dépouillé de tout, on l'a dépouillé de ses vêtements, on l'a crucifié, on le provoque, on se moque. On pourrait dire on lui a tout enlevé, mais lui, il peut encore donner quelque chose à ce brigand. Pas quelque chose de matériel, mais il va lui donner une promesse, une certitude. Et il lui dit, en vérité, je te dis. Et il lui dit, aujourd'hui. Vous voyez, le brigand, il avait demandé, quand tu viendras dans ton royaume, souviens-toi de moi, peut-être dans longtemps. Toi, tu viendras dans ton royaume un jour, souviens-toi alors de moi. Mais le Seigneur lui dit, en quelque sorte, il lui dit, on ne va pas attendre mon royaume futur. Il va se passer quelque chose pour toi aujourd'hui. D'accord ? Vous voyez la différence entre quand tu viendras dans ton royaume, c'était la demande du brigand, le Seigneur, il ne lui dit pas quand je viendrai dans mon royaume, il lui dit aujourd'hui. Et il va lui dire en plus, tu seras avec moi dans le paradis. C'est-à-dire, il lui fait comme promesse, il lui donne comme certitude que ce brigand, il va mourir, mais que, en fait, sa mort, ça sera le passage de la terre au paradis. Pas de la terre au royaume, mais pas de la crucifixion au royaume, mais de la crucifixion au paradis. Et dans le paradis, le brigand serait avec le Seigneur. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Donc vous voyez la portée, la valeur de ce que le Seigneur donne comme réponse à la demande du brigand qui se repent. Il lui donne une certitude. Il lui dit que aujourd'hui même, il va y avoir un changement énorme pour lui. Et que ce changement, ce serait que ce brigand, il allait être avec le Seigneur. Et où ? Dans le paradis. Donc il ouvre au brigand une porte dans le paradis avec lui. Et donc on voit que ça nous parle du salut. J'ai dit tout à l'heure que c'était une parole de salut, pour être sauvé. Donc ce brigand, il se repent, il se tourne vers le Seigneur avec foi et il reçoit le pardon de ses péchés, il reçoit le salut sans aucune œuvre. Il n'a rien fait, cet homme, sur la croix. Il ne pouvait absolument rien faire. Il avait les mains et les pieds crucifiés. Aucune œuvre possible. Simplement la foi dans le Seigneur. Et par la foi au Seigneur, il reçoit le salut, le pardon de ses péchés. Et cette assurance, cette certitude qu'il serait avec lui dans le paradis. Donc, ce brigand, il ne va pas passer par une étape intermédiaire pour savoir s'il était réellement sauvé ou pas sauvé, comme certains disent. Dans l'Église catholique, on dit que les morts ils passent par le purgatoire. C'est, on va dire, une étape où on voit si vraiment ils peuvent être sauvés ou s'ils ne peuvent pas être sauvés. Non. Directement, le purgatoire, ça n'existe pas dans la Bible. On passe de la terre au paradis, pour ceux qui ont cru. Avec certitude. Il n'y a pas peut-être que, c'est en vérité, je te dis. Et ça se passe dans les dernières minutes de sa vie. Et j'ai lu un calendrier il n'y a pas très longtemps, ça m'avait un peu touché. C'était quelqu'un qui posait la question, quand est-ce que je dois me convertir ? Et la réponse, c'était au moins une minute avant ta mort. Quand est-ce que je dois me convertir ? Au plus tard, une minute avant ma mort. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, il faut se convertir tout de suite. Il faut se repentir tout de suite parce que personne ne sait quand il va mourir. Donc, il faut se repentir tout de suite. Et dès qu'on se repent, dès qu'on se convertit, il y a cette certitude, cette assurance d'être avec le Seigneur, d'appartenir au Seigneur et que la mort n'est qu'un passage vers le paradis. Donc c'est une parole de salut. Est-ce qu'il y a des questions sur cette deuxième parole du Seigneur ? Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Alors, on pourrait dire plus sur qu'est-ce que c'est que le paradis, qu'est-ce que c'est que... Voilà. Mais je veux dire, la force, la beauté de cette promesse, c'est « avec moi dans le paradis ». S'il avait dit au brigand « tu seras, aujourd'hui tu seras dans le paradis », ça aurait été déjà bien, n'est-ce pas ? Mais là, il lui dit « tu seras avec moi dans le paradis ». Donc, on peut dire que ce qu'il y a de précieux et de le plus précieux, c'est d'être dans la présence du Seigneur. Pas seulement d'être dans le paradis, mais d'être avec le Seigneur, dans le paradis. Donc, ce qu'elle montre, cette deuxième parole, c'est que le salut, il n'est pas par les œuvres. On est sauvé par la repentance et par la foi au Seigneur Jésus. Il n'y a pas besoin d'accomplir une œuvre. Il n'y a même pas besoin d'être baptisé pour être sauvé. Cet homme-là, il n'a pas été baptisé. Il n'a rien fait, si ce n'est se repentir et croire au Seigneur Jésus. Et le Seigneur lui ouvre la porte du paradis. On passe à la troisième parole du Seigneur. Et après, on fera la pause. Alors, là, il faut passer à l'évangile de Jean, où Jean seul va nous rapporter quelque chose. Quelque chose qui s'est passé sur la croix, seulement Jean qui le rapporte. Donc on voit qu'il y avait des femmes, quatre femmes qui se tenaient là en particulier, dont Marie, la mère du Seigneur. Et, verset 26, « Jésus, voyant sa mère et le disciple qu'il aimait, se tenant là, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Donc, représentons-nous la scène. Le Seigneur crucifié, le Seigneur vient de s'adresser au brigand, repentant, et le Seigneur voit autour de lui encore d'autres personnes, ses femmes, son disciple qu'il aimait, C'est Jean, l'évangéliste Jean. Et en fait, le Seigneur, vous comprenez bien, il a ce qu'il était en train de vivre et ce qu'il allait vivre. Dans quelques instants, il allait connaître la colère de Dieu contre le péché, l'abandon de Dieu. Donc quelque chose de terrible que le Seigneur allait connaître, on va le voir plus tard. Mais ce qui est très touchant, c'est de voir que le Seigneur, il est sensible donc aux personnes qui sont autour de lui. On a vu, il a été sensible au brigand qui s'est repenti. Il lui a ouvert la porte du paradis. Et là, il va voir sa mère en particulier et son disciple Jean, et il va être sensible à ce qui va leur arriver à eux. Donc ce qu'on remarque, c'est que le Seigneur, alors qu'on aurait pu imaginer qu'il soit concentré sur ses propres souffrances à lui, qu'il soit, on pourrait dire, exclusivement pris par la méchanceté des hommes, l'injustice des hommes et ce qu'il endurait lui, alors effectivement, il a ressenti tout cela, mais ce qu'on peut voir, c'est qu'il avait, en plus de tout ça, il avait encore des sentiments et de la sympathie pour les hommes qui étaient autour de lui. Donc on voit l'amour immense qu'il y avait dans le cœur du Seigneur. Non pas quelqu'un qui était uniquement fixé sur ses propres souffrances, mais quelqu'un qui pouvait, à ce moment-là, au moment où il souffrait au maximum, il pouvait voir les besoins de ceux qui étaient autour de lui et encore être sensible à ses autres besoins. Et ça, c'est là aussi, c'est quelque chose de merveilleux, de voir cet amour, cette tendresse qu'il y avait dans le cœur du Seigneur pour ceux qui étaient encore à côté de lui, alors que lui souffrait les souffrances les plus grandes. Alors, il y a un verset que j'aimerais mentionner dans Luc chapitre 2. Dans Luc chapitre 2, en fait, c'est quand le Seigneur était un petit enfant et qu'il venait de naître, il était encore un petit enfant. Il avait été amené dans le temple et il y avait Siméon, le vieillard Siméon, qu'il avait pris dans ses bras. Et Siméon, il avait dit en Luc 2, versets 34 et 35, il avait dit à Marie, sa mère, au sujet de son fils, il lui avait dit, « Voici, celui-ci est mis pour la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, et pour un signe que l'on contredira, et la parenthèse, et même une épée transpercera ta propre âme. » C'est cette parenthèse que je voulais lire. Donc il dit à Marie, alors que le Seigneur était un petit enfant, il lui dit, un jour, une épée transpercera ta propre âme. Et il me semble que c'est ce qu'on voit ici dans Jean 19 sur la croix. Quand Marie voit son fils crucifié, avec le contexte qu'on a rappelé, on peut penser qu'il y avait comme une épée qui a traversé son âme, transpercé son âme. Donc on voit la force de cette expression, de cette souffrance de Marie qui voit son fils crucifié, injurié, insulté, avec toute cette haine, cette violence contre lui, et qu'elle ne peut rien faire. Elle subit tout cela et son fils subit tout cela. C'est cette souffrance de Marie, elle est décrite par cette expression, une épée transpercera ta propre âme. Donc le Seigneur, il voit sa mère et il sait la souffrance que connaît sa mère à ce moment-là. Et donc le Seigneur va dire, il va dire à Marie, Femme, voilà ton fils. Et à Jean, il va lui dire, voilà ta mère. Donc on peut comprendre que le Seigneur demande à Jean de s'occuper désormais de Marie comme s'il s'occupait de sa propre mère. Et il demande à Marie de considérer Jean, le disciple, comme son propre fils. Donc, on voit l'amour qui est dans le cœur du Seigneur, qui voit que Marie va être laissée seule, en quelque sorte, que Jean va être laissé aussi seul, en quelque sorte, sans lui, et il tient à ce que les deux cohabitent et que Jean s'occupe de Marie comme de sa mère et que Marie s'occupe de Jean comme de son fils pour qu'ils puissent se soutenir mutuellement. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'à ce moment-là, le Seigneur, il nous montre encore l'importance des liens de famille. Il est ému et il est sensible au fait que sa mère soit laissée seule et il veut que sa mère ne soit pas laissée seule mais que quelqu'un la prenne chez lui et qu'il s'en occupe comme de sa propre mère. Donc ça nous parle de l'importance des liens de famille. Et ça nous parle de la tendresse et de la sensibilité du Seigneur à ce sujet, pour sa propre mère, et cela dans les circonstances les plus difficiles pour lui. Donc je répète, un amour qui déborde. Voilà, donc l'importance de ces liens, de ces liens de famille. Et il me semble qu'on peut dire aussi, qu'on voit à travers ces paroles du Seigneur, quelque chose qui n'est peut-être pas encore explicite à ce moment-là, qui n'est pas très très clair à ce moment-là, mais qu'on va clairement voir après, c'est que par la mort du Seigneur, ou en vertu de la mort du Seigneur, il y a une nouvelle famille qui se crée, la famille de Dieu. Et que dans cette nouvelle famille, ceux qui appartiennent à cette nouvelle famille, ils appartiennent à ceux qui croient au Seigneur Jésus, constituent une nouvelle famille et ils peuvent prendre soin les uns des autres. C'est ce qu'on voit clairement après dans l'assemblée qu'il y a dans le Nouveau Testament, l'Église, qui est aussi la famille de Dieu. D'accord ? Donc, il me semble qu'on voit dans les paroles du Seigneur quelque chose d'un peu symbolique. Quelque chose qui est très très beau, c'est que, en fait, à travers la mort du Seigneur, il y a quelque chose, une nouvelle famille qui se crée. La famille de Dieu, et que tous ceux qui croient en lui constituent cette nouvelle famille. Et on peut se considérer comme étant de la même famille, parce que nous sommes de la famille de Dieu. Donc vous voyez, ces liens qui se créent, ces liens d'amour qui se créent à travers la mort du Seigneur, que lui-même crée, on peut peut-être voir voilà, que c'est effectivement ce qui va clairement être décrit après dans le Nouveau Testament, la famille de Dieu, et nous appartenons à cette famille de Dieu. Et nous pouvons nous aimer les uns les autres comme étant les membres d'une même famille. Et voilà, on peut se dire, si on se tenait dans nos esprits au pied de la croix, devant le Seigneur, ensemble devant le Seigneur, et qu'on voyait ses souffrances et qu'on entendait cette voix qui parle, eh bien, entre nous, on s'aimerait. Parce qu'on voit notre même Seigneur dans ses souffrances, dans sa mort, dans ses perfections, et naturellement, ça serait des motifs pour s'aimer les uns les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc voilà, dans cette parole du Seigneur, où on voit sa tendresse, sa sollicitude pour sa mère et pour son disciple, on voit l'importance des liens de famille, On voit d'abord les sentiments parfaits du Seigneur vis-à-vis de sa mère, l'importance des liens de famille, et on voit en quelque sorte la création, la formation d'une nouvelle famille, la famille de Dieu. Juste peut-être une parenthèse sur Marie. Donc, voilà, dans l'Église catholique, on utilise ces paroles du Seigneur pour donner une place à Marie qui, on dit, l'Église dit que Marie est la mère de tous les croyants. Parce que le Seigneur dit ça à Jean. Voilà ta mère. Et voilà, on prétexte ce verset pour donner à Marie un rôle que la Bible ne lui donne pas. Et voilà, je pense qu'il faut bien voir tout ce que la Bible nous dit au sujet de Marie. Ça a été une femme qui a été choisie par le Seigneur, par Dieu, pour être la mère du Seigneur, pour porter le Seigneur dans son ventre et pour lui donner naissance. Donc ça a été un grand privilège pour elle. Dans ce sens, c'est une femme exceptionnelle. Mais la Bible et le Nouveau Testament ne donnent pas plus à Marie comme rôle. Donc, il ne faut pas tordre des versets pour leur faire dire ce qu'ils ne disent pas. Voilà. Je dis ça juste pour dire que là, on voit des liens de famille que le Seigneur crée, sur lesquels il insiste, mais il ne faut pas utiliser ces paroles pour donner à Marie un rôle que le Nouveau Testament ne donne jamais. Par contre, le Nouveau Testament va clairement enseigner que nous sommes la famille de Dieu, que nous sommes des frères et sœurs dans cette famille de Dieu, mais le Nouveau Testament ne va jamais donner à Marie un rôle comme celui que l'Église catholique lui a donné. Donc, ne faisons pas dire à ces versets ce qu'ils ne disent pas, mais voyons dans ces versets, dans ces paroles, la profondeur de l'amour du Seigneur, sa tendresse, sa sympathie, ses sentiments pour sa mère et ses liens qu'il crée à travers sa mort.